en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment Jean Cardo est-il devenu sculpteur ? Il revient sur l'histoire de son parcours pour Canal Académie, en toute transparence, avec l'aisance du recul sur une vie dense, marquée selon ses propres mots par une chance inouïe. Mais que signifie la chance pour un artiste ? En pleine guerre, dans la France occupée des années 40, Jean Cardo intègre une petite école d'art de province l'année de ses 13 ans. Son père, cheminot, lui fait apprendre à 14 ans, pendant les vacances, le métier de tailleur de pierre. Très tôt, il comprend sa vocation. Seule, la sculpture l'intéresse. En entrant à 16 ans, à l'École des arts décoratifs de Lyon, le monde de la sculpture et des arts s'ouvre à lui, il n'en sortira jamais. Pour Canal Académie, il évoque ses années de jeunesse, sa venue à Paris, à l'École nationale supérieure des beaux-arts, dont il a suivi aussi les cours. Quel sculpteur rencontrait-il alors ? Qui admirait-il ? Comment a-t-il trouvé son propre langage en sculpture ? Écoutez-le parler de ses œuvres principales au cours de cet entretien enregistré dans son atelier. Jean Cardo, comment êtes-vous devenu sculpteur ?
Oh ben c'est très très simple. Nous étions une famille de 7 enfants. Mon père était cheminot. Il avait une passion pour la sculpture. Né à Saint-Étienne, il connaissait un sculpteur stéphanois qui s'appelait Émile Tournaire, qui faisait des monuments funéraires. Et sa passion, c'était la sculpture sur bois, le modelage. Alors, en dehors de son travail, il modelait le buste de son père, de mon frère. C'était un républicain, alors de Johannes Merlat, des chansonniers, de Jean Jaurès, Et moi, tout petit, il sculptait aussi beaucoup le bois. Et tout petit, il y avait l'établi dans la grande cuisine où nous étions. Il travaillait, et moi je montais sur un tabouret et je le regardais, je l'admirais, je prenais ses outils et je commençais à dessiner. Et à 11 ans, ma première, ou 10 ans, je ne me souviens plus, à l'école communale, on nous a demandé que vous voulez faire plus tard comme métier. Moi, je n'ai pas dit pompier ou aviateur, j'ai dit sculpteur. Alors l'instituteur a été étonné parce que ça me paraissait évident. Donc j'ai continué, il a voulu me mettre au lycée, le lycée était fermé, c'était la guerre, l'école des beaux-arts était ouverte, alors il dit pour ne pas perdre ton temps, tu vas aller à l'école des beaux-arts.
Et c'est à Saint-Étienne ?
Saint-Étienne, oui, c'était à Saint-Étienne, j'y allais déjà au cours du jeudi, j'avais 11 ans, et à 13 ans et demi, je suis rentré à l'école des beaux-arts pour quelques mois, avec une dispense d'âge. Et puis, je n'en suis plus jamais sorti. Je me suis cramponné. C'est pour ça qu'on m'appelait le petit Cardo, parce qu'évidemment, j'avais 13 ans et demi, même pas 14 ans. Et donc, j'étais avec des camarades qui avaient 4 ou 5 ans de plus que moi. Je n'en suis plus jamais sorti. Je suis parti après à Lyon. Mais entre-temps, mon père, qui était quand même un rêveur, qui se considérait les artistes comme des êtres exceptionnels, purs, enfin bon. Il était assez pragmatique. Il m'a mis pendant les vacances à tailler la pierre. Il m'a dit la sculpture, c'est bien, le modelage, tout ça, mais tu vas apprendre à tailler la pierre, c'est toujours un métier. Alors donc, très jeune, à 14 ans, j'étais chez des marbriers pendant les vacances.
C'était où, Monsieur Cardo ?
Toujours à Saint-Étienne. Toujours à Saint-Étienne. Et j'ai appris à tailler la pierre dans une pierre très dure. Enfin, j'ai appris le métier de tailleur de pierre très, très jeune. Et à 16 ans, je devais monter aux arts décoratifs de Paris. Ma mère a trouvé que j'étais un peu jeune. D'ailleurs, réussi au concours des arts déco de la rue d'Ulm. Ma mère trouvait un peu jeune, alors elle m'a mis. On était aux arts de Lyon, c'était plus près de Saint-Étienne. Et à Lyon, je suis rentré donc à 16 ans. J'ai continué à faire des études classiques de sculpture, de dessin, de peinture, enfin tout ce qu'on peut faire dans les écoles de beaux-arts de province.
Ça, c'était après la guerre.
Donc ça, c'était en 1946. Oui. Donc la guerre était finie depuis un an. Mais c'était encore la période des restrictions, enfin les périodes troubles. Mais c'était l'euphorie quand même de paix. Et il y avait, malgré les restrictions et les problèmes, on était heureux de vivre. Et j'étais avec. Alors j'ai toujours travaillé avec des aînés, j'ai toujours travaillé avec des gens plus âgés que moi, soit à Saint-Étienne, mais surtout à Lyon, des gens qui revenaient de la guerre, qui avaient fait de la résistance, pour moi des gens que j'admirais et qui m'avaient pris sous leur coupe, quoi. Et je faisais, qui avaient peur de rien, ils étaient revenus à la vie, ils avaient fait les 400 coups et pleinement. Et je suivais ces gens-là, j'étais le petit Cardo toujours, enfin de là j'avais quand même un peu grandi. Donc tout ça pour vous dire que j'étais au Beaux-Arts de Lyon. Alors là, j'ai continué à faire des études, mais à travailler aussi pour un sculpteur qui s'appelait Tajana et qui m'a apporté beaucoup sur le plan technique. Et je travaillais aussi avec un autre professeur qui m'a appris la mise au point, enfin, qui m'a appris tout le métier. C'est-à-dire qu'à 19 ans, quand je suis arrivé à Paris, parce que j'ai fait 3 ans Saint-Étienne, 3 ans Lyon, je suis arrivé à Paris avec le prix de Paris de la ville de Lyon, qui donne une chambre. C'est un prix qui donnait une petite bourse et une chambre gratuite. Et je suis arrivé à Paris avec un métier.
Oui,
c'est-à-dire qu'à 19-20 ans, je savais tailler la pierre, mettre au point, enfin tout ce qui est métier de sculpteur praticien.
Et vous aviez déjà travaillé le bois, la pierre?
J'ai travaillé le bois, la pierre, mais la pierre, je savais, ça, enfin, le métier de praticien, le métier de metteur au point.
Alors qu'est-ce que c'est ce métier?
Metteur au point, mais on est capable de, j'ai des photos là d'ailleurs, on est capable de reproduire une sculpture avec une machine à mettre au point de la taille. Et on est capable aussi d'agrandir ou de réduire une sculpture aux trois compas. C'est un vrai métier. Et à 19 ans, je l'avais entièrement, 20 ans, pour moi, c'était normal. Et quand je suis arrivé à Paris, je pensais que les Parisiens, tout ça, ils connaissaient, c'était pour moi l'école nationale supérieure, ce qui était vrai, donc j'avais pas mal d'inquiétudes. Et puis quand je me suis rendu compte que l'atelier de taille directe que j'ai dirigé 20 ans après, ou même pas, oui, une vingtaine d'années après, je suis monté en 49 et j'ai eu l'atelier de taille directe en 75. Et quand j'ai vu ce qu'ils savaient faire, ben finalement, ils ne savaient pas faire grand-chose, quoi. Ils n'avaient pas appris le métier de base comme moi, dans une carrière ou chez un marbrier. Et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi dans ma vie.
Et alors, dans cette période de formation, vous êtes tout jeune, vous sentez que la sculpture, c'est elle qui va vous révéler complètement? Vous n'avez pas été tenté par d'autres arts? Parce que là, vous étiez au Carrefour, vous étiez encore très jeune.
On faisait des études du dessin, de l'architecture, de la perspective que je n'aimais pas beaucoup, mais de la peinture. Mais finalement, il n'y a que la sculpture qui m'intéressait. Mais le dessin aussi et la peinture. Mais je me suis rendu compte très tôt que je n'étais pas peintre. Contrairement à des gens, j'en ai fait, mais je n'ai jamais eu le culot de faire vraiment de la couleur. Et je faisais toujours quelque chose en camailleux. Enfin, je faisais des peintures et je mettais un papier dessus parce que ça me paraissait trop vulgaire. Et finalement, il n'y a que la sculpture qui m'a intéressé, mais en appréciant beaucoup la peinture. Mais vous savez, j'ai fait ces études pendant 6 ans, aussi bien à Saint-Étienne qu'à Lyon. Pour moi, c'était un bonheur. J'aurais pu aller au lycée très bien. D'ailleurs, ça m'a peut-être manqué dans ma vie. Mais d'un seul coup, je ne faisais que ce que j'aimais, que j'avais une passion de 8h du matin à midi, de 2h à 6h, cours du soir, samedi matin, dimanche matin. J'avais le samedi après-midi pour jouer au football, le dimanche pour aller au cinéma. Et j'ai fait ça. Alors pour moi, c'était j'ai eu une chance inouïe, quoi. Une chance inouïe que par mon père, parce que mon père avait quelques inquiétudes sur mon avenir, mais en même temps, il ne se rendait pas tellement compte parce qu'il considérait que les artistes... Et il était tellement heureux d'avoir un fils qui fasse ce que lui aurait voulu. Et c'était très curieux. Au fur et à mesure que je rentrais dans ce monde et que je me rendais compte de la difficulté d'apprendre, mais de la difficulté de se battre dans ce métier où on ne se fait pas tellement de cadeaux. Et mais lui ne se rendait pas compte de ça, c'était un poète. Alors je n'ai pas voulu le décevoir, et finalement, je peux m'excuser, mais j'étais un peu premier partout. Alors je voulais le rassurer, quoi. Je ne voulais pas qu'il se rende compte des problèmes d'artiste, parce que j'ai compris tout de suite la difficulté de s'imposer avec un métier pareil. Mais j'étais tellement heureux de le faire. J'étais fauché comme tout le monde. Depuis l'âge de 14 ans, je n'ai pas apporté à mes parents de l'argent comme tous mes camarades de quartier qui allaient à l'école et puis qui travaillaient très jeune en usine et qui apportaient de l'argent. Moi, je n'en ai pas apporté, mais je n'en ai jamais demandé. Parce que j'ai travaillé, je me souviens, enfin, ça intéresse peut-être personne, mais qu'à 14 ans, je gravais des lettres dans les cimetières. Il s'y repose et j'étais devenu très habile, j'en faisais 25 à l'heure et je gagnais plus que presque mon père pendant 2 mois, lui, au chemin de fer. Alors, c'était une joie, un plaisir immense et pour moi, c'était la chance de ma vie, quoi, de faire que ce qui me plaisait, où je ne sentais pas. J'avais des efforts à faire, mais qui était, enfin, j'ai eu une chance.
Que vous arriviez à surmonter.
À surmonter, bien sûr.
Assez facilement.
Alors évidemment, je n'ai pas tout go. J'ai accumulé un savoir sans... Alors je me suis cultivé par les livres, par la curiosité d'aller voir les grands maîtres, enfin...
Ça, c'est venu après ?
C'est venu pendant, mais c'est venu surtout à Lyon. Et c'est venu surtout, c'est arrivé surtout à Paris. Et c'est vrai que, alors là, ma seule préoccupation n'était pas technique, elle était de me trouver, enfin de créer, ce qui continue aujourd'hui d'ailleurs.
Et ça, les artistes.
Oui.
Quand vous arrivez à Paris, donc dans ces années 49-50, que vous cherchez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vie parisienne sur le plan intellectuel justement et ces courants artistiques au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Comment un jeune qui avait déjà en main son métier de sculpteur, justement, quelles questions vous vous êtes posées? Qu'est-ce que je vais faire? Comment s'y retrouver? Parce que justement, vous aviez des atouts en main puis d'autres vous manquaient.
Mais bien sûr, l'essentiel me manquait. Mais c'était très simple finalement parce que quand je suis parti de Lyon, le prix de Paris est une récompense qu'on donne à... Alors c'est un prix comme c'est le petit prix de Rome. Et à Lyon, on est la vedette, on est le prix de Paris. On arrive à Paris, on n'est rien. Rien du tout. Mais pour moi, c'était l'émerveillement. J'habitais pas loin d'ici. C'était donc en 49, 50. Alors il était évident que je retournais chez moi de temps en temps parce que mon père était cheminot, je ne payais pas le train. Mais de plus en plus, j'étais pris par la vie parisienne, pris par l'esprit de l'époque. C'était dans les années 49-50, l'école c'était rue Bonaparte, Saint-Germain-des-Prés. Le 14 juillet, j'ai dansé devant les deux magots avec Claude Luther et Sidney Béchette. Alors tout ça, pour moi, c'était exceptionnel. Et là aussi, j'ai retrouvé cet après-guerre, ce besoin de vivre, de créer. Et puis j'ai fréquenté les musées, et puis j'ai été voir... J'ai découvert les sculpteurs modernes. Évidemment, il y avait l'école, il y avait l'académie, il y avait cet enseignement assez académique, assez classique, mais qui ne peut-être pas apporter ce que j'espérais sans savoir exactement ce que je voulais. Mais ça m'a permis d'avoir un atelier, un patron, des camarades où il y avait César, ça m'a permis d'être dans le bain. Mais quand je sortais dans la rue, à rue Bonaparte, Saint-Germain-des-Prés, le Louvre en face, pour moi, j'ai tout de suite aimé Paris. Je suis reparti en province, je suis retourné comme professeur aux Beaux-Arts de Lyon en 61. Je remplaçais mon patron, je vais faire un saut, j'avais le bâton de maréchal au point de vue responsabilité, mais j'étais trop jeune et je ne pensais qu'à revenir à Paris. J'ai démissionné au bout de 3 ans d'un poste de professeur qui m'assurait aucun problème financier, pécunier, mais qui m'avait fait peur aussi parce que les copains, quand ils m'ont arrivé, que je connaissais, qui avaient 5 ou 10 ans de plus que moi, ils me disent « Oh, t'es jeune, quelle belle retraite tu vas avoir !» Déjà ça m'avait complètement... refroidi que pour un artiste on pense à la retraite, mais enfin pourquoi pas. Mais j'ai eu besoin de Paris. C'est d'ailleurs quand je suis arrivé à Paris la première année, deuxième année, j'ai travaillé comme on le faisait en province, c'est-à-dire j'arrivais le premier dans l'atelier, et quand on dit j'arrivais le premier en province, c'est 8h, 8h30, là c'était 9-10 heures, et tout le monde me regardait comme une bête curieuse, et puis j'ai travaillé un an, puis la deuxième année, je me souviens, c'était dans la fin des années 50, j'aurais dû être appelé à l'armée, puis je ne l'ai pas été, c'était ma classe. Alors là, je n'ai pas laissé tomber l'école, mais j'ai vécu la nuit, j'ai voulu redécouvrir je suis devenu d'adolescent adulte, quoi. Et ça, non, Paris pour moi, c'est toujours une nécessité.
Quels sont les sculpteurs de cette époque que vous aviez envie de découvrir?
Oui, alors je pourrais dire que je suis arrivé en 49-50 et j'ai eu la Casa Velázquez en 1957, ce qui était déjà. Mais jusqu'en 57, j'ai accumulé, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses intéressantes, mais j'avais pas encore trouvé mon langage. Mais pour répondre à votre question, tout ce qui était de la sculpture ou de la peinture ou de la littérature ou du théâtre, parce que dans ces années-là, je n'allais pas qu'aux Beaux-Arts, on allait au théâtre, on allait au concert, enfin on vivait sa vie de jeune homme et d'étudiant et d'homme, quoi. Et alors les sculpteurs qui m'ont intéressé au départ, évidemment, c'était Michel-Ange, c'était Rodin, et puis j'ai découvert Henry Moore, mes patrons qui étaient Gaumont, qui étaient Janiou, qui m'amenaient des choses, mais j'allais à l'extérieur. J'ai découvert Giacometti, je posais des questions.
Vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Je l'ai rencontré quand j'ai eu le prix Bourdelle en 61. Mais avant, je ne l'ai pas rencontré. Habitant le quartier, je le voyais souvent au bistrot du coin, qui est de la rue d'Alésia, de la rue Didot, où j'allais prendre un café ou un verre. Et lui était au fond du bistrot, il buvait un verre, mais je n'osais pas le rencontrer. Pour moi, c'était un... Et puis, je l'ai connu. Enfin, là, chronologiquement, on va brûler les étapes, mais pourquoi pas. Je l'ai connu en 61, quand j'ai eu le prix Bourdelle, quand Couturier, qui était un homme que j'allais voir régulièrement.
Et autre grand sculpteur,
qui m'a beaucoup apporté. Ce n'était pas mon professeur, mais c'était l'homme que j'allais voir régulièrement avec des sculptures. J'avais besoin de l'avis de Couturier. Et un jour, Couturier, au téléphone, parce que je faisais de la restauration à ce moment-là au château de Puy-Guilhem, parce que j'ai toujours continué à tailler la pierre, et je faisais de la restauration dans un château Jacques Coeur à côté de Brantôme. Je faisais des travaux d'Hercule, enfin, je gagnais ma vie comme je pouvais. C'était passionnant, d'ailleurs. Il avait une maison là-bas à Brantôme, à côté. Il me dit, bon, vous allez voir Camille, le menuisier, j'ai ça et ça à faire. Je dis, OK. Puis il me dit, avez-vous des sculptures je dis oui, je revenais de la Casa Velasquez. J'avais déjà trouvé...
Ça commençait
à trouver mon langage. Enfin, je sortais de cette période de venir, mais qui n'était pas encore complètement au point. Enfin, c'est jamais au point, mais c'était... Et puis, je dis oui, il me dit, écoutez, je suis du jury du prix Bourdelle, vous ne l'aurez pas, j'ai quelqu'un en vue, mais présentez-le toujours. Et puis, je l'ai présenté, et puis je n'étais même pas là le jour où il y avait, parce que Madame Bourdelle, la fille, disait, il faut être près du téléphone, si vous avez le prix, il faut venir vite. Et là, dans ce jury, il y avait Henry Moore, il y avait Zadkine, il y avait Giacometti, il y avait Couturier, Henri Coste, Harpe, Madame Bourdelle, et puis j'ai le prix. J'ai le prix avec Isabelle Valberg, qui est devenue une amie, qui était un sculpteur que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu ce prix, et j'avoue que je n'avais pas eu je n'avais pas eu le prix de Rome, le grand prix de Rome. J'ai eu le deuxième second 54, le premier second 50.
Le fameux prix de Rome. Le
fameux prix de Rome. Et j'avais déclaré, parce qu'il y avait des interviews et des visites, j'avais déclaré à la télé, ou je ne me souviens plus où, qu'avoir un prix avec les noms que je viens de citer, c'est autre chose que de ne pas avoir le prix de Rome avec ces vieilles barbes de l'Institut, qui m'ont ressorti d'ailleurs. Yves Braillère m'a montré, quand je suis rentré en 83, m'a dit, t'as vu ce que tu disais? Je dis, oui, je le maintiens. Enfin, tout ça, c'était avec beaucoup de tendresse et de gentillesse. Et donc, j'ai eu ce prix avec ces gens-là que j'ai rencontrés à ce moment-là, oui. Dont Giacometti. Et pour moi, ça a été une chose importante, parce qu'on a toujours des doutes. Mais là, je me suis dit, après tout, je crois en ce que je fais, mais là, il y a quelque chose. Et là, j'ai travaillé beaucoup. La même année, j'étais professeur Beaux-Arts de Lyon. J'ai eu le prix... de Brantôme, le prix Bourdelle, et ça a été le départ dans mon œuvre.
On a fait effectivement ce saut dans le temps avec Giacometti quand je vous ai posé cette question. Donc l'origine de ma question, c'était quels étaient les sculpteurs que vous avez envie de rencontrer dans ces moments de formation. Ceux qui vous ont influencé, c'est peut-être autre chose. C'est Couturier. Il vous a guidé.
Non, Couturier ne m'a pas influencé.
Voilà. C'est une autre question, l'influence. Oui. Mais peut-être voulez-vous y répondre.
Non, Couturier mettait toujours le doigt, m'ouvrait des portes, comme ça. Mais la première fois que j'ai vu la sculpture d'Étienne Martin, j'ai été impressionné, influencé, comme quand j'ai vu Henry Moore. Alors je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre comment ils travaillaient, mais ils m'ont inspiré, enfin, ils m'ont influencé, et j'en ai fait une sculpture en pensant à Étienne et en pensant à Moore, pour comprendre, c'est tout, pour savoir pourquoi ces gens-là m'avaient influencé. Je les ai toujours considérés comme des grands sculpteurs, mais ça a été pour moi une façon de me trouver, de m'affirmer. Ça n'a pas été une copie. Je n'ai pas passé ma vie à faire du sous-Martin. J'ai toujours voulu être ce que je suis, c'est-à-dire moi-même. Je n'ai pas voulu passer à côté de ma vérité, mais j'ai eu le besoin de comprendre pourquoi il faisait ça et de comprendre non seulement par la réflexion ou par l'admiration, mais par le fait de réaliser une sculpture à la manière d'eux. J'ai voulu savoir comment. Et ça n'a pas été... Ce ne sont pas des choses très, très grandes, mais c'était très important.
Elles s'appellent comment, ces sculptures ?
J'avais un grand bas-relief à faire pour un gymnaste à Saint-Étienne, à Firminy, et c'était des basketteurs que j'avais pris, mais je les traitais comme une sculpture d'Étienne Martin. C'était une construction. Et puis Moore, j'ai voulu, c'est des petits bas-reliefs, j'ai voulu comprendre. J'ai fait des petites sculptures, des bas-reliefs qui étaient aussi bien valables en creux qu'en bosse. Vous voyez, une forme dans les deux sens. Enfin, j'ai, à ma façon, à moi, alors Giacometti, c'est autre chose, mais j'essaye de trouver, enfin, j'étais impressionné. Je ne savais pas tellement pourquoi, au départ. On ne sait pas pourquoi. On est comme Picasso, c'est pareil. Tous ces gens-là, vous avez même des gens complètement abstraits, comme enfin, tous les grands sculpteurs, toute la sculpture m'intéresse, qu'elle soit du Moyen-Âge, qu'elle soit grecque, qu'elle soit égyptienne. La grande sculpture m'intéresse, qu'elle soit figurative ou non figurative. Quand il y a un contenu, je suis toujours... J'aime la sculpture envers et contre tout. Mais moi, je ne suis que moi, Cardo. Et je ne fais pas faire du sou quelque chose.
Alors, quand vient cette reconnaissance du monde de la sculpture, vous avez à peine 31 ans. C'est assez jeune pour un artiste. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir des commandes et vous allez mener plusieurs chantiers à la fois. Vous faites des choix ou vous prenez tout ?
Mais je choisis rien et je choisis tout. Je choisis tout, oui, ce qui passe. J'ai des commandes avec des architectes pour les 1%, des sculptures qui s'intègrent dans l'architecture. Et j'ai accepté ça d'abord parce qu'il faut vivre. Mais j'ai surtout accepté ces commandes où il n'y avait pas... comment dirais-je, où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais la sculpture, il faut de l'argent pour la réaliser. Et j'avais l'occasion, par ces commandes, de réaliser des grandes sculptures que je n'aurais jamais pu faire tout seul. Donc mon ambition, c'était de faire ces grandes sculptures avec cet argent. Même si je ne gagnais pas beaucoup d'argent, peu importe. J'ai toujours eu un second métier. Et puis j'avais à côté de moi, toujours parallèlement, d'autres sculptures qui sont les... Quand je suis revenu de la Casa Velázquez, j'avais été impressionné par les taureaux, j'ai fait des taureaux. Mais je n'ai pas choisi, j'ai continué ma vie avec les commandes que j'avais, que j'adaptais dans l'architecture, tout en étant moi-même. Et puis mes sculptures qui revenaient régulièrement, mes fantasmes avec les femmes, les animaux, les formes. C'est ma vie qui a fait que je ai fait telle ou telle chose. Mais je suis plus instinctif que... Enfin, il y a de la réflexion, mais je n'ai pas vraiment choisi une direction. Alors, j'ai été voir, évidemment. J'ai vu tout ce qui se faisait autour de moi. Quand je vous parle d'Étienne Martin, je vous parle de Moore. La sculpture, quand c'est de la vraie sculpture, et qu'est-ce que c'est que la vraie sculpture, évidemment, eh bien, elle m'intéresse avant tout. Elle m'apporte quelque chose. Il n'y a pas que la sculpture, il y a la peinture, il y a la littérature, il y a la gravure, il y a tout le monde, il y a le théâtre, enfin tout. Mais je vous dis, j'ai fait des 1%. Et puis, parallèlement à ça, aussi, je l'oubliais, j'ai eu l'occasion, par hasard, je ne vais pas raconter les détails, à 24 ans, d'une demander de faire de l'esthétique industrielle qu'on appelle du design. Et j'ai, pour une société, pour des chauffe-eau. Et d'un chauffe-bain énorme, j'ai fait une chose qui, un an après, s'est vendue comme des petits pains aux arts ménagers. Alors j'ai fait ça pendant moins 10-20 ans, d'une façon ponctuelle. Pas. Et alors j'ai découvert un autre monde, un monde d'affaires, de polytechniciens, de chefs d'entreprise, de chantiers navals. Et ça m'a ouvert, ça m'a apporté beaucoup dans le sens où je pouvais gagner de l'argent quand je faisais ça. Alors j'ai fait des chauffe-bains, j'ai fait des chauffe-eau, j'ai fait des postes de télé, j'ai fait un château d'eau, j'ai fait plein de choses comme ça, mais pas d'une façon ponctuelle. Et ça m'a aussi fait découvrir un autre monde, et ça m'a permis, en dehors des commandes du 1%, de gagner ma vie et de faire ma sculpture.
Oui.
Qui est toujours... Et puis un jour, il y a un marchand qui est arrivé. Je n'ai jamais, et ça au grand jamais, je n'aurais pas pu le faire, parce que c'est de l'orgueil, de l'ambition, j'en sais rien. Je n'ai jamais pris mon bouc sous le bras et allé voir des galeries, jamais. Ça, c'est une chose qui... Et un jour, il y a un marchand qui est arrivé, et par hasard, je ne pensais même pas que je l'intéresse, et puis ça a marché pendant 10 ans. Je n'ai jamais eu de contrat, enfin, je ne sais pas si j'ai exposé souvent, mais jamais sans contrat, jamais avec un contrat, je veux dire. Parce que je voulais être libre. Et la marchande qui appréciait ma sculpture, il me l'achetait, il le vendait le prix, ça ne m'intéresse pas, mais je n'ai jamais voulu me lier à... Je voulais être un homme... J'étais un homme libre toute ma vie, finalement. J'ai fait un second métier pour pour la sculpture, toujours pour la sculpture.
Et ce marchand, vous voulez dire son nom ?
Je peux le dire, c'est Hervé Odermatt, qui était avenue de Matignon, et qui à l'époque avait des sculpteurs qui étaient des amis à moi, qui étaient différents de moi, que je respecte beaucoup son art. C'était Derbré, le petit Louis qu'on appelait. Mais c'était quand même assez loin de ce que je faisais. C'était pas ce qui est... et je ne pensais même pas que ce marchand puisse me prendre. Et puis je l'ai même, quand il est venu chez moi pour la première fois, il a voulu m'acheter une sculpture. Je lui ai dit, mais vous aimez ça, vous? Parce que je n'étais pas en forme, je n'étais pas, très bonne humeur. Il m'a dit, bien sûr, mais pourquoi vous croyez? Et puis il a acheté, et puis c'était lui. Et ça a marché une dizaine d'années, puis ça s'est arrêté. Il a été important dans le sens qu'il a... Il m'a fait des expositions, il a diffusé mon travail, et ça compte, quoi. J'avais ça, tant mieux, mais j'ai toujours gardé à côté quelque chose pour gagner ma vie, puisque j'étais professeur 3 ans aux Beaux-Arts de Lyon, que j'ai démissionné au bout de 3 ans, parce que ça me gênait dans mon travail, parce que j'allais à Lyon toutes les semaines et que je vous disais que j'aimais trop Paris, que je voulais m'installer dans cet atelier, et je voulais vivre à Paris. J'ai démissionné, et pendant 10 ans, 15 ans, j'ai travaillé beaucoup, tout en faisant de l'esthétique industrielle, qu'on appelle le design, et puis la sculpture. Et puis après, je suis revenu professeur aux Beaux-Arts de Paris à 45 ans, taille directe. Mais j'ai démissionné parce que ça me gênait dans ma création. Et j'estime encore aujourd'hui que... On peut être enseignant, professeur, tout ce que vous voulez, mais on ne peut qu'apporter aux élèves que si on a une œuvre personnelle. Et là, je ne l'avais pas encore. J'ai toujours dit, mais c'est parce que je suis peut-être un peu paresseux, que mon seule expression, c'était la sculpture. Et on parle toujours trop.
Les sculpteurs ne parlent pas beaucoup.
Non, mais même, on parle toujours trop. Aujourd'hui, on parle trop de la création. Et j'ai été impressionné par des discours, je me souviens...
Oui, vous avez toujours été un peu réticent à ce discours sur création.
C'est-à-dire que je ne suis pas...
Le discours théorique,
oui,
peut-être.
Oui, mais quand on lit Proust, quand on lit Rodin, ou quand on lit...
Vous aviez une jolie
quand
phrase,
on lit,
d'ailleurs.
Là, je ne sais pas laquelle, mais... Quand on lit Rainer Maria Rilke, quand on lit... je me souviens à l'École des Beaux-Arts, et je ne dirais pas le nom de ce peintre, parce que ce n'est pas bien... Et il faisait partie du jury des diplômes de mes élèves, et il avait une attitude envers mes élèves qui faisaient la taille directe et qui avaient des travaux très intéressants, différents, évidemment, parce qu'il y avait des gens plus ou moins doués, mais plus que respectables. Il avait un mépris total de tout ce qui se faisait parce que c'était pas dans le coup, soi-disant, et il a eu un discours qui m'avait impressionné, qui m'avait troublé. Et puis un jour il a exposé dans une galerie et je me suis dit il faut que j'aille voir ce type quand même et quand j'ai vu son œuvre, alors là j'étais soulagé et je me suis permis de lui dire écoutez mon cher, vous m'aviez impressionné, vous avez un discours quelquefois abscon mais qui m'avait quand même troublé, mais je me rends compte que dans votre œuvre tout ce que vous avez dit vous le laissez à la porte de l'atelier parce que c'était nul. Enfin, c'était nul, c'était pas complètement nul, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'art qu'on le pratique. Et ça, je l'ai toujours dit. Alors, je dis pas qu'il faut pas en parler, mais le sculpteur, enfin, moi, en tout cas, personnellement, ce que je suis, ça se voit pas dans mon travail. Et je le dis sûrement d'une façon très maladroite, mais tant pis.
Revenons sur ces années où vous avez justement trouvé votre langage. Il est difficile de vous enfermer, Jean Cardot, dans un genre, dans un thème. Vous pouvez à la fois répondre aux commandes et consacrer du temps à des créations plus personnelles.
Je suis un homme libre. Je suis Quand j'ai fait mes commandes, vous parlez des commandes de 1%, je suis toujours le même. Je suis toujours Cardo. Alors il est évident qu'il y a peut-être une création plus intime, plus personnelle, j'aime pas ce mot-là, parce que... Et puis on parle de... Vous voyez, j'ai mon œuvre, et puis finalement, je suis heureux de faire la sculpture, et je ne peux pas me répéter. Mais je suis curieux de toutes les expressions. Et c'est pour ça que la première sculpture, après la Casa Velázquez, que j'appelle Recherche d'écriture, on appelle ça une sculpture... On dirait que c'est une sculpture abstraite. Elle n'est pas abstraite. J'ai trouvé à travers cette sculpture une écriture qui m'a permis de réaliser les taureaux que je voulais faire, mais qui n'étaient pas les mêmes de 3 ans avant. Et après, à cette période-là, je suis souvent parti d'objets, de cailloux, de bouts de bois, d'une chose qui m'ont tout de suite attiré l'œil, et je construis autour. Vous savez, et aussi bien avec un modèle, enfin un modèle sans poser, une vision d'une jeune femme sur une plage ou de mon épouse à sa toilette. Hop, ce sont des éclairs, ce sont des visions qui, tout de suite, j'ai envie de réaliser. Mais j'ai fait une série de sculptures que j'appelle... ce qu'on appelle les sculptures à la cuillère. Je moulais dans des petits ballons, dans des cuillères. Et puis j'ai fait des séries de sculptures, mais j'en fais 4-5. Et puis j'ai trouvé, mais je n'ai pas envie de me répéter. Comme j'ai fait, quand je suis revenu de la Casa Velázquez, j'ai eu le prix Bordel, et puis j'avais fait une série de taureaux, mais pas tellement. Alors Cardo, c'était les taureaux. Mais non, les taureaux m'ont intéressé, m'ont revenu pendant un certain temps, puis après, je suis passé à autre chose. Mais c'est toujours le même. Mais je ne crois pas que je m'éparpille. J'ai un besoin de faire ce que j'ai envie de faire. Je suis allé, la première fois, j'étais aux États-Unis en 70, j'ai passé un mois à visiter, 8 jours à New York, et j'étais absolument impressionné par la rue.
Oui, vous en avez fait une très grande sculpture.
Une sculpture que j'appelle Times Square. Ce sont des personnages. Parce que ce voyage m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça a été pour moi pendant 2-3 ans une chose importante. Mais je ne peux pas me répéter. Quand je n'ai plus rien à dire, je préfère me taire, quoi. Mais l'idée première de Times Square, c'était ce qui m'avait impressionné à New York, surtout dans toute l'Amérique, c'est la dimension de ce pays fabuleux, mais la dimension de l'architecture, et puis l'homme dans la rue, enfin l'homme, le SDF, le clochard, la morphologie de certains Américains qui mangent tout le temps. Enfin, ce qui m'avait impressionné, c'était 70. Mon idée, c'était de faire... Je pensais que c'était ce côté grandiose et inhumain et fabuleux de l'architecture américaine, ces deux vies terribles où, si vous êtes malade, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Alors, je voulais faire ça grandeur nature et montrer ça dans nos villes nouvelles que je trouvais sur le plan architectural intéressantes, mais inhumaines. Et donc, ce que vous avez, Times Square, que vous avez vu à Kekonti, c'est l'esquisse, c'est le départ. Mais mon idée, c'était de faire des sculptures grandeur nature, d'exposer ça dans les villes. J'avais même pensé faire ça en matériaux plus ou moins légers. Ce n'était pas automatiquement du bronze. C'était que pour que les gens puissent vivre avec ces sculptures, déplacer mes personnages. Parce que c'était mon idée, mais c'est toujours pareil. La sculpture, ça coûte très cher à réaliser. Alors on n'arrive pas à tout faire. Si on a beaucoup d'argent, on peut se permettre. Mais là, je voulais montrer ce que nous allions devenir, enfin, l'avenir de cette architecture un peu inhumaine, gigantesque, qui écrase l'homme, quoi. C'était ça.
Où est-ce qu'on peut, le public peut voir autrement
Il peut le voir. Mon idée, qui était un peu utopique, c'était de faire je pensais toujours à Créteil ou à la Défense, d'aller installer tous mes personnages. Comme ça, il y avait un banc avec un vieillard dessus. J'aurais voulu que quelqu'un vienne s'asseoir. J'ai vu à New York des gens mourir dans la rue, un gars mourir dans la rue et une indifférence totale autour. Moi, je regardais tout ça, je trouvais pas. Et puis, une heure après, on l'embarquait parce que Enfin, ce qu'on voit les SDF aujourd'hui, les pauvres types qui sont couchés où tout le monde passe autour. Enfin, je voulais montrer ça parce que ce pays extraordinaire où il se passait plein de choses, mais il y avait des paradoxes énormes entre la richesse et puis la misère, enfin, du pauvre homme sensible ou tout seul ou pauvre, quoi. Et c'est... Alors, vous voyez, en fait, mon imagination, j'ai pas d'imagination, mais je subis l'influence de... Quand je voyage, je subis toujours l'influence d'un pays. Mais si je voyage pas, je subis l'influence d'une rencontre dans la rue ou d'un sujet, comme là, vous m'avez parlé du monument de la résistance et la déportation de Créteil. C'était un concours que j'ai fait. J'étais sur place un soir. Je suis resté pendant une heure ou deux dans ma voiture. Je dis, qu'est-ce que je vais faire pour symboliser la résistance et la déportation? D'abord, je pensais à l'architecture qui était environnante. Je ne pouvais pas lutter avec cette architecture gigantesque. Alors, j'ai concentré, j'ai pensé...
Il est au milieu d'une grande place.
Il y a un rond-point de 30 mètres. Et on a le sujet, un rond-point de 30 mètres de diamètre. Et on nous a dit, monument résistance à la déportation du Val-de-Marne. Des déportés, alors que ce soit du Val-de-Marne ou de la France entière, ou même du monde, tout est pareil. Alors, l'idée de ça... Vous voyez, c'est l'idée de ça, c'est que c'est le sujet qui m'a donné la sculpture. Alors, évidemment, après, le sculpteur apporte son savoir, sa construction, mais je n'ai pas passé mon temps à faire toujours la même sculpture, comme le grand sculpteur qui est Mayol. Mayol a fait toujours la même sculpture, la Méditerranée, c'était toujours des femmes qui bâtissaient, et pourquoi pas, et c'est très bien d'ailleurs. Tandis que moi, j'adaptais à chaque environnement.
Vous êtes très sensible au lieu où seront vos sculptures.
Très, mais oui, je ne peux pas. C'est un sujet donné, comme Winston Churchill ou comme De Gaulle. Alors, pour revenir au monument de Créteil, je me suis dit, voilà, pendant que j'avais 11 ans, 10 ans, 40, j'ai vécu 4 ans d'occupation. Le printemps revenait, l'hiver revenait, la vie paraissait normale. Le ciel était bleu, mais la souffrance était à travers les camps, les corps. Je me souviens de passant devant le grand hôtel de Saint-Étienne, on nous faisait traverser la rue parce qu'on torturait dans les caves et les gens gueulaient. Alors, la vie paraissait normale, tout paraissait... Alors, j'ai fait un grand volume tout lisse et tout chaotique à l'intérieur que l'homme, la volonté de l'homme, la résistance fait éclater et la vie repart.
Voilà,
C'est l'idée.
C'est une sphère qui éclate.
Qui éclate et la vie repart. J'ai fait un escalier.
On y
descend et j'ai inscrit, en pensant à l'intérieur, j'ai pensé à tous les fusillés qu'on allait faire, que la veille qu'on allait fusiller, écrivaient sur les murs à leurs femmes, à leurs épouses. Alors j'ai pris des poèmes d'Aragon, d'Éluard, des poèmes de gens inconnus, et j'ai écrit pour pas que les gens oublient tout ça. Alors vous voyez que c'est le thème
les
qui
mots.
Me fait que je fais une sculpture. Et c'est toujours moi. Mais j'aurais pu très bien faire, et pourquoi pas, un personnage enchaîné. Mais non, et pour moi, c'est pas abstrait tout ça. C'est pas abstrait, au contraire. Alors la vie, elle est alors j'avais mis d'ailleurs une sculpture de déporté, puis je l'ai supprimée et j'ai dans cette force, parce que je crois beaucoup, on ne peut pas opprimer un peuple, pour moi c'est pas possible. On a beau l'anéantir un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, la vérité, la vie repart. Et là, j'ai un escalier qui monte, et c'est un personnage, c'est l'homme de tous les jours qui repart à la vie. Voilà, c'est un symbole.
Vous êtes, je disais tout à l'heure, très sensible à l'environnement. Vous apportez même la touche finale au dernier moment, à l'endroit où va être placée la sculpture. On peut peut-être évoquer justement l'une des deux, Churchill ou De Gaulle, ce soin particulier que cette dernière patte cardo dernier moment.
Oui, vous avez raison. Alors donc je continue à faire une sculpture qui est toujours la, je dirais pas plus personnelle, mais qui est le côté merveilleux de la recherche à travers la forme. Alors, la forme qui peut être une femme, un homme, un animal, mais qui est une forme avant tout, hein, une forme vivante pour moi. Et alors, bon, j'ai eu l'occasion, je n'étais pas fait pour faire des grands personnages, mais j'ai eu l'occasion en 88 ou 90, enfin 90 un peu avant, à l'Institut, on nous a demandé qui voulait participer pour un concours de la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg. Et moi, j'ai dit, mon ami Carton, que j'aimais beaucoup, voyez, par exemple, à l'Institut, c'est une parenthèse, j'avais deux sculpteurs que j'admirais, que j'aimais, c'était Carton, Jean Carton, qui est un sculpteur figuratif, mais qui est merveilleux, et Étienne Martin, et d'autres aussi, mais ces deux-là m'amenaient autant l'un que l'autre des choses, d'abord par l'amitié, et puis par leur travail. Vous voyez, je ne faisais pas de différence, et pourtant, d'ailleurs, ils s'entendaient très bien tous les deux, et on pourrait croire qu'il y a un monde entre eux, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est pour moi, c'est comme ça. Alors donc, on avait demandé à Carton, puis il me dit, je n'ai pas envie de faire ça, est-ce que tu veux le faire? Je dis, bon, ça m'intéresse que tu veux que je fasse une grande duchesse. Et puis, des architectes du Luxembourg m'ont appelé, ils ont voulu travailler avec moi. Alors, j'étais faire le voyage, je ne connaissais pas ce pays. J'ai découvert des gens, se remarque, sympathiques et tout, un peuple passionné, aimant leur grande duchesse, j'ai dit quoi. Et puis on a justement, vous parlez d'environnement, on a refait, il y avait la place Clairefontaine, dont il fallait tout refaire. J'ai travaillé pendant 6 mois avec eux sur la place, et placé la sculpture de la grande duchesse. Mais c'était devenu, à la limite, c'était devenu la cerise sur le gâteau. Enfin, il y avait d'abord l'environnement. Et 15 jours avant le concours, 3 semaines avant, je dis quand même, faut que je travaille vraiment avec eux sur l'environnement et l'architecture. Je dis, il faut bien faire quelque chose. Alors je me suis enfermé dans mon atelier avec les photos de la Grande-Duchesse et puis je l'ai mis en place. Mais c'est l'environnement et le centre de cette ville du Luxembourg qui m'a donné l'esprit, l'idée de cette femme. Et puis ça a marché. Bon, ben ça a marché pour... J'ai fait ça. Ensuite, on m'a demandé un concours, toujours pareil, de faire la statue de Pierre de Coubertin.
Est-ce que c'est celle qui est en ce moment dans le bâtiment, justement, Porte de Gentilly, dans le stade Charletti?
Oui, oui. Bon. Qui a été inaugurée par Nelson Payou.
D'accord.
Et voilà.
Bon, on la voit, elle est à la proue du navire de l'architecte, je crois que c'est Godin.
C'est Godin,
qui l'a fait.
Et il y a un exemplaire, il y a un tirage à Lausanne aussi. Mmh. Voilà. Bon, et puis après, il y a eu le concours de Winston Churchill. Et le concours de Winston Churchill, alors Pierre Messmer, qui était le président du comité, m'a demandé d'y participer, parce que j'avais déjà travaillé pour lui, pour la ville de Sarrebourg, mais je n'étais pas tout seul. Ouais. Il y a une sélection, on a une demande de 10 sculpteurs, et on a sélectionné 4 ou 5, dont moi. Et puis j'ai eu, c'est à l'époque où j'ai perdu mon épouse, j'ai pas pu travailler pendant 6 mois où je m'occupais d'elle. C'était à l'époque où Bernard Zerfus, le secrétaire perpétuel, venait de mourir. J'étais vice-président à l'Académie des Beaux-Arts, donc j'assurais l'intérim en tant que perpétuel, et j'avais le chauffeur et je continuais à travailler avec l'académie, mais j'avais surtout le souci avec mon épouse qui était opérée du cœur. Enfin bon, et ça a duré quelques mois où là je faisais plein de choses, mais je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu faire de sculpture, impossible. Mais je pensais quand même à ce projet, j'en parlais avec elle. Et puis le jour, elle est morte le 12 juillet 1996, le 17, on l'enterre. J'avais Michel dans le chauffeur de l'Académie des Beaux-Arts. Et j'ai dit à Michel, vous me transportez sur... vous allez m'amener à l'emplacement où on doit faire la sculpture, c'est-à-dire à droite du Petit Palais. Et je l'ai mis là, j'ai dit lever le bras, tout ça. Et tout de suite, j'ai trouvé l'emplacement, enfin trouvé, j'ai dit il va être là. Et le lendemain, c'était un dimanche, en 2h, 4h, j'ai fait la maquette. J'ai fait le premier jet est arrivé. Après, j'ai travaillé. Et Churchill, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a aidé à supporter le drame, enfin la perte de mon épouse que j'aimais beaucoup. Enfin, d'un être avec qui j'avais vécu pendant plus de 40 ans. Donc, et à ce moment-là, je me suis lancé dans ce personnage. On me disait toujours, vous avez lu des choses. J'ai lu après, finalement, parce que Churchill, comme De Gaulle, m'est arrivé ma jeunesse, ou entre 10 ans et 14 ans, 15 ans avec, pendant la guerre, où à la radio, mon père avait fait plus ou moins de la résistance, enfin on écoutait la radio, et tous ces grands personnages existaient, enfin, journellement, Churchill, De Gaulle, Hitler, Staline, les généraux, enfin, j'ai beaucoup pensé à cette époque-là, et ils m'ont amené beaucoup plus pour le faire. Après, j'ai lu des choses que j'avais plus ou moins. Et puis voilà, alors j'ai fait ce personnage qui m'a fasciné, qui me fascinait déjà étant jeune. qui me fascinait beaucoup plus étant jeune. Et tout est revenu. Tout est revenu dans ma tête à ce moment-là. Et puis j'ai fait un premier jet après quelques mois où je n'ai pas travaillé. Puis j'ai fait une deuxième étude. Et puis j'ai fait la sculpture que vous savez, qui a duré 2 ans. Et puis De Gaulle, c'est pareil, c'est un concours. Mais je voulais dire aussi que je fais ce concours, je décroche ce concours, et après, je prends conscience de la responsabilité de ces statues qui vont se trouver en plein Paris, au rond-point des Champs-Élysées. Et là, je me dis, Cardot, où tu vas, quoi ? Ça vaut ce que ça vaut. Enfin, quelle responsabilité de faire cette sculpture ? Alors, il y a un côté, chez moi, mon épouse disait d'ailleurs, les pieds sur terre, mais un côté inconscient, quoi. Mais je fonce, parce qu'une une fois que j'ai gagné, il faut bien assumer. Mais à ce moment-là, c'est des. C'est un travail immense. Mais je peux dire que ces hommes ont hanté mes nuits, quoi. Dans le bien et le mal, que j'ai eu des conversations avec De Gaulle, que je me suis battu avec Churchill. Quand je montais sur l'échafaudage, que je faisais sa tête, je me battais avec lui. Mais enfin. Et puis la responsabilité de gagner, d'assumer. Quelle responsabilité ? Si j'avais plus ou moins réfléchi, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais ça, c'est ma vie entière a été comme ça.
Ces deux personnages, alors c'est des grands, des sculptures monumentales. Le De Gaulle, c'est la dernière qui a été...
Non, Churchill non, alors, d'abord.
Mais De Gaulle a été installé
deux ans après. Voilà. D'ailleurs, quand on m'a demandé de faire le concours, j'ai dit, mais écoutez, je viens de faire Churchill. Elle me dit, oui, ça sera sûrement pas pour vous.
Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein.
Mais non, mais j'ai dit, elle me dit, vous savez, vous ne l'aurez sûrement pas, vous avez déjà fait un concours, mais on demande à tous les sculpteurs qui ont travaillé pour Paris. Il y a eu Tim, il y a eu, pardonnez-moi, je connais pourtant que lui, celui qui a fait la Léon Blum, qui est une très bonne sculpture. D'ailleurs, enfin, on était de 3 ou 4 à participer. Et bien, j'avais même demandé à William Chataway, qui est un sculpteur que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup d'estime pour l'homme et son œuvre. Et j'avais dit, écoute, j'ai fait l'anglais, j'ai fait Churchill, tu devrais faire le concours parce que j'aimerais bien l'avoir, mais si je ne le mets pas, j'aimerais bien que ce soit toi qui fasse De Gaulle et moi Churchill. Et elle m'a dit, ok, il l'a fait, il ne l'a pas eu, mais après, il a eu l'élégance de me dire, la courtoisie de l'élégance de me dire, écoute Jean, je trouve ça très bien que ce soit le même qui ait les deux parce qu'il y a la même patte, quoi.
Oui, c'est j'aurais, rare en
j'aurais
plus.
J'aurais été vraiment ravi que ce soit lui parce que je trouvais c'est drôle que l'anglais fasse le français et le français l'anglais. Et donc, je l'ai eu, mais au départ, ce n'était pas évident. Hein. On m'avait bien averti, vous savez. Alors, je me demandais pourquoi on m'a invité. Mais parce qu'on invite, comme je l'ai dit tout de suite, on invite les sculpteurs qui ont travaillé pour Paris.
Alors, ces deux hommes, vous avez choisi de les représenter en marche.
Mais c'est-à-dire que je n'ai pas choisi, c'est un concours. Non mais le libellé, c'est Winston Churchill descendant les Champs-Élysées le 11 novembre 1945 avec De Gaulle. Donc il descend les Champs-Élysées. Le général De Gaulle descendant les Champs-Élysées le 25 août ou le 24 août. Mais voilà. Alors c'est très précis, vous savez.
D'accord.
Je me souviens pour De Gaulle, il y avait une image qui m'a toujours impressionné. C'est De Gaulle sur un bateau avec un grand imperméable, avec des jumelles, il a un regard lointain, et lui m'inspirait beaucoup plus. Et j'avais demandé, j'ai dit, non, c'est De Gaulle descendant les Champs-Élysées, un point, c'est tout. Et avec ce costume qui n'a rien de saillant pour un sculpteur, un veston et un machin. Et alors, pour De Gaulle, Churchill, c'est arrivé assez rapidement, parce que pendant 6 mois que mon épouse était à l'hôpital, je pensais à lui, et puis c'est sorti vraiment d'une grande rapidité. Ça a été après difficile, parce qu'on croit avoir, on trouve un premier jet, mais après, la sculpture est là, il faut le faire. Il faut l'agrandir de mi-grandeur. Mais De Gaulle, je n'y suis pas arrivé tout de suite. J'étais même, pendant un mois, j'ai failli abandonner, parce que je faisais toujours un De Gaulle qui ressemblait plutôt à Jacques Tati. Et puis un jour, d'une façon très simple, j'ai réfléchi, j'avais des photos dans mon atelier, et puis je me suis mis à la place de De Gaulle descendant les Champs-Élysées, tout le 25 août 1945, et libérant Paris. Après 4 ans de ce qu'il venait de subir, il descend les Champs-Élysées, j'ai dit, il ne touche pas terre, quoi. Il est transfiguré, il est sublimé, et là ça a marché.
Et effectivement, votre sculpture de De Gaulle,
c'est venu comme ça.
Les pieds.
C'est pas normal, quoi.
Voilà.
Il a les deux pieds décollés,
voilà,
c'est parce
exactement.
Que pas normal. Et puis j'ajouterais que je n'arrivais pas non plus à trouver son mouvement avec ce costume. Alors j'ai dit, Tiens, Rodin a fait Balzac et il a fait des tas d'études de Balzac tout nu.
Oui, oui, oui.
Et moi, j'ai déshabillé De Gaulle et j'ai gardé que le képi. Et ça m'a complètement libéré. Ce grand personnage qui me paralysait par sa présence, par son passé, son intelligence. Enfin, c'est un grand personnage. Churchill, c'était différent. Ça m'a libéré quand j'ai pensé. D'ailleurs, j'en ai des.
Des esquisses
Ah, j'ai plein d'esquisses, bien sûr. Ah, ben, j'ai des esquisses, j'ai des grandes esquisses. Alors, je ne les montre pas, mais j'ai mes Balzac. Rodin a plein d'esquisses de Balzac qui sont absolument géniales. Quoi. Je ne dis pas que les miennes sont géniales, attention. Mais ça a été une façon de construire, de trouver le mouvement et puis de me libérer de ce personnage qui me paralysait finalement.
Alors ces deux hommes en marche, même si c'était le thème du concours,
oui,
hein.
Oui.
Vous parliez de Rodin, il y a l'homme qui marche aussi de Rodin, on parlait de Giacometti tout à l'heure, même chose. Alors oui, c'est le sujet des sculpteurs.
Mais c'est pas le, mais ah, c'est, pardon, un, c'est un des sujets.
Sujet, mais c'est un,
vous savez, je dois l'avouer.
C'est une histoire un peu récente.
Je l'avouais que j'ai eu un moulage de l'homme qui marche, mais c'est un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas copié, mais je l'ai regardé, il m'a servi. Et puis, à travers Churchill, ben, qu'est-ce qui m'a intéressé? Churchill, c'est ce personnage qui fonce, qui a de l'humour, que rien n'arrête. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, j'avais fait sur un socle et il marchait tellement que j'ai dit, va tomber, va sauter. Alors j'ai rajouté devant un autre socle, une autre marche, où j'ai écrit une phrase que, parce que j'avais demandé, je voulais inscrire une phrase, nous ne nous rendrons jamais, enfin en anglais. C'est le souvenir de ma jeunesse, et puis c'est après toutes les photos, toutes les choses à laquelle j'ai pensé, puis j'ai essayé de faire dans la sculpture ce qu'on doit toujours faire quand on fait un portrait ou tout, c'est de trouver la personnalité, une âme, et la personnalité profonde du personnage, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec De Gaulle, avec Churchill, avec J. Thomas Jefferson, qui est une autre commande, qui se trouve encore dans Paris, c'est très différent. Alors, le Thomas Jefferson, c'est un peu différent. C'est toujours aussi difficile. La sculpture est toujours difficile, mais le costume est plus saillant. Et plus, c'est un costume d'un siècle 17e, 18e. Et c'est autre chose parce que faire une sculpture avec un veston et un pantalon et un képi, c'est pas. Mais il y a un moment, il faut dépasser ça. Il y a un moment où le costume n'existe plus, où ça devient. Pas abstrait, mais ça devient autre chose, quoi. Où le pantalon et la veste n'est plus un pantalon et une veste, ça devient la sculpture. Enfin, j'espère que j'ai réussi. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour curieuse. Quand j'ai présenté à la mairie la sculpture, la maquette du général de Gaulle, et il y avait 30 personnes autour, pas un seul artiste, mais enfin des gens compétents, sans doute, dont le gendre du général de Gaulle, le général de Boissieu. Et impressionné, et j'ai présenté ma sculpture en essayant de dire que je l'inscrivais dans cet environnement, à côté du Grand Palais, tout ça, en essayant d'expliquer tout ce que je voulais faire pour De Gaulle. Et puis le général de Boissieu me dit « C'est très très bien, cher maître, cher ami, mais la cravate du général de Gaulle. » Alors j'ai dit « C'est pas possible qu'on me demande un truc pareil, une cravate. » Un détail, alors je m'en suis sorti comment j'ai pu. Il m'a d'ailleurs écrit une lettre que je garde toujours et qui m'avait plus ou moins agacé, pas la lettre mais la réflexion sur la cravate, une lettre m'expliquant que le tissu de son costume venait d'Angleterre, il m'a fait avec des tas de détails qui m'ont agacé mais qui finalement inconsciemment m'ont servi, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand la cire était terminée à la fonderie de Coubertin...
Ce sont des grandes sculptures à la cire.
À la cire, oui, à la cire. Il y a un journaliste de l'AFP qui est venu avec un chauffeur. Le chauffeur s'appelait Jojo. Et Jojo, un vrai Parisien, avec le photographe qui était un type bien, arrive devant ma sculpture et dit « Oh ben ça, c'est la cravate du général !» Alors, j'ai dit « Pourquoi ?» Et il me dit « Oh ben moi je le connais, je l'ai suivi en moto tout le temps, c'est la cravate !» Alors, vous voyez, même que des remarques comme ça aussi, qui pour moi paraissaient loin de la sculpture, inconsciemment, c'est drôle, non, comme histoire. Comme quoi, il ne faut pas juger. Ça m'avait un peu agacé. Finalement, il m'a rendu. Je lui ai dit après au général de Boissier, je lui ai expliqué inconsciemment, ce Jojo en question a reconnu ce type simple, a reconnu la cravate du général. Donc c'est drôle, non? Et ça, c'est en vous, sans le savoir, quoi.
Merci, monsieur Cardo. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le premier volet de cet entretien de Jean Cardo au micro de Canal Académie. Retrouvez Jean Cardo dans le deuxième volet de cette émission, en ligne prochainement sur Canal Académie. Il évoquera, au cours de l'entretien, ses activités à l'Académie des Beaux-Arts, où il a été élu en 1983, au fauteuil de Paul Belmondo. Il évoquera également la fonderie Coubertin, la technique de la cire directe, d'autres sculptures chères à son cœur et les épées d'académicien qu'il a réalisées.